Autosécurité, votre contrôle technique en toute tranquillité présente
10h, midi,
Sud Radio,
ça roule.
Et ça roule toujours avec Gaspard qui a garé son carrosse, Gaspard Koenig de Bobico.
Béliard de Bobico, je ne vais pas le répéter à chaque fois.
Mais si.
Comment vous faites
bien sûr que si.
Comment vous faites avec les papiers Gaspard, sécurité sociale et tout pour écrire le
c'est
nom.
C'est un peu compliqué.
Il
n'y
a pas assez de
cas. Béliard de Bobico, KBV, KBV.
Mais la semaine prochaine, je m'en
KBV, ferai... vous n'êtes pas passé loin.
Je vais aller chercher des demandes de certificats d'immatriculation et tout. Je vais voir si vous pouvez le remplir s'il y a assez de cases.
On fera le test.
Ça m'intéresse.
Pierre, c'est notre Robin des Bois de la défense de l'automobile. Automobilistes, des usagers de la route en général, hein, motards également, routiers.
Oui, on fait aussi. Voilà. On fait parce qu'un automobiliste n'est pas qu'automobiliste évidemment. Vous pouvez aussi avoir une moto et une voiture. Bref, le dénominateur commun de tous ceux qui sont sur la route, c'est qu'objectivement, on monte tous dans une voiture. Donc c'est vrai qu'humblement, on s'est dit, on va l'appeler 40 millions d'automobilistes, le nombre de permis de conduire en France. Mais ça aurait pu s'appeler 60 millions, hein. Ça aurait pas été un problème. On est tous automobilistes à un moment donné et on a tous besoin d'être protégés.
Et puis moi, bah, je suis votre chauffeur. Hein. Donc tout va bien.
Oh, génial. Voilà. J'ai même un chauffeur.
Je vous emmène. Je suis pas votre chauffeuse. Hein.
Non,
parce que
compris.
C'est pas la même utilisation, on est d'accord.
Non, mais ça, vous me connaissez, moi, les femmes. Hein. C'est pas mon truc.
Alors, 11h04, on va continuer notre rendez-vous. Juste vous annoncer évidemment la suite jusqu'à midi, puisque dans notre dossier, nous allons parler des avertisseurs de radar. Faut-il interdire les avertisseurs de radar, style Coyote, style Waze, tous les réseaux sociaux, faut-il les interdire? Eh bien, vous serez évidemment les bienvenus pour en parler en notre compagnie. Et puis, bien surtout, eh bien, on aura aussi la présence d'Alexandre Després. Alexandre Després, qui est quelqu'un qui fait partie de la police nationale. Et qui écrit des brèves de volant, Gaspard.
Et oui, qu'est-ce donc des brèves de volant? Et ben c'est tous les petites histoires un peu amusantes qu'il a rencontrées dans sa vie en tant que policier, quand il a arrêté les automobilistes, qui lui ont inventé des excuses vraiment
invraisemblables.
Invraisemblables, voilà,
mais
exactement.
Drôle. Et puis il viendra aussi nous parler du fait qu'à partir de lundi, eh bien, ces brèves de volant sont en petit programme court. Alors petit et court, ça veut dire la même chose. Programme court sur M6, qui est mon autre maison. Voilà, donc
vous
on pourra voir.
Quoi?
J'ai des très très belles maisons. Sud Radio et l'autre, évidemment. Allez, et puis tout de suite, on a la cote, donc vous voulez faire estimer votre voiture, vous voulez la vendre, vous voulez en connaître son prix, ou vous êtes intéressé, attiré par une voiture et vous voulez savoir si le vendeur en demande le juste prix, eh bien c'est parti, et on commence dès maintenant avec vous, Charles, qui est avec nous sur Sud Radio. Bonjour Charles.
Bonjour madame.
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 Moi j'ai pris
monsieur.
Un coup de vieux là. Dites Laurence.
Oh non, surtout pas.
Comment allez-vous?
Comment allez-vous? Très bien, madame.
Et la liaison alors, comment t'as?
Non mais je peux dire aussi sans,
comment
je
ne
suis pas obligé de faire la liaison. Mais
certes madame.
S'il vous plaît,
plaît-il.
S'il vous plaît. Charles, vous vendez une voiture qui est une 3008.
Une 3008 hybride 4.
Alors, ça veut dire quoi hybride 4, Pierre?
Mais c'est pas du tout la même chose, c'est que là on n'est pas dans le cadre d'une motorisation simple essence ou diesel. L'hybride, bah, vous savez ce que c'est, l'hybride c'est un véhicule qui passe aussi en récupération d'énergie pour pouvoir consommer 0 litre au 100 lorsqu'elle est en électrique.
Oui.
C'est ça. Alors
oui,
Charles, quelques détails sur votre 3008, on a besoin
d'en
savoir un petit peu plus.
C'est la 99 grammes, 2 litres HDI, 163 chevaux. Et ETG 6, boîte automatique 6 vitesses.
Elle est de quelle année cette voiture?
Elle est de février 2015, monsieur.
Ah, elle est récente. Est-ce que je peux me permettre de vous demander pourquoi vous la vendez maintenant?
Ben, parce que j'ai été séduit par une autre voiture.
Ah, laquelle?
La Tiguan.
Très bien. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, d'ailleurs, dans la voiture?
Ah, il passe chez Volkswagen.
Oui.
Qu'est-ce qui vous plaît dans la... Vous êtes un vrai automobiliste, un vrai rouleur. C'est quoi pour vous la voiture, Charles?
Je roule environ 15 000 km par an.
D'accord. Et c'est quoi comme symbolique? Moi, je sais que personnellement, c'est la liberté, l'autonomie. Et vous?
C'est la liberté aussi.
Liberté aussi. Vous avez eu des voitures...
Liberté aussi de... Liberté,
pardon.
Oui.
Liberté. Vous avez eu des voitures depuis combien de temps vous avez vos voitures, vous?
Oh, depuis 50 ans.
Alors, les premières voitures que vous aviez il y a 50 ans, par exemple?
Une Fiat 850.
Oh, la Fiat 650.
850.
Ah, 850. Et vous l'étiez offert juste après votre permis, à 18 ans?
À 18 ans.
Et cette voiture, elle a duré combien de temps avec vous?
Oh, elle a duré...
3 mois.
Non, un peu plus.
Oui, c'est une petite voiture.
Elle a dû durer 3-4 ans, quoi.
Ah ouais. Ouais.
Alors dites-moi Charles, oui. Bon, évidemment je vais pas être dans la bonne nouvelle, la bonne bêtise. Vous l'avez acheté neuve évidemment la 3008.
Oui.
Bon, alors vous savez qu'un véhicule, dès que vous achetez un véhicule neuf, vous sortez la porte de la concession, vous avez déjà perdu 10% du minimum du prix de la valeur.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Voilà, et encore je suis gentil, c'est plutôt 20%. Bon, alors on est sur une cote occasion qui nous amène quand même le véhicule à plus de 20 000 euros. En plus, il y a un marché de l'hybride qui se porte extrêmement bien sur le marché de l'occasion. Alors ça s'est écroulé sur les ventes de véhicules neufs, l'hybride, pourquoi ? Eh bien bah parce que la prime du gouvernement a été abaissée, mais sur le marché de l'occasion, ça se vend comme des petits pains. Donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle, celui qui achète votre voiture fait une véritable affaire. Moi je vous conseille de la caler aux alentours des 24 000 euros, vous ne volez personne. Vraiment vous êtes sur un chouette véhicule, je pense qu'à entendre votre voix et votre passion automobile et le véhicule vers lequel vous voulez glisser, vous êtes quelqu'un qui avait dû l'entretenir avec des doigts d'orfèvre.
Elle n'a aucune rayure, il n'y a même pas de traces de gravier sur le capot avant.
Bon, alors on est bien d'accord, ce véhicule, 24 000 euros, il va partir. Mettez-le un petit chouïa en dessous, vous connaissez la technique, hein, le 23 000
euros. Oui, bien sûr.
C'est un véhicule qui va partir plutôt facilement, je pense. Il va falloir. Vous habitez dans quelle région de la France ?
À Auch. Dans le sud-ouest.
Auch. Ok, alors c'est vrai que plus vous êtes proche d'une grande ville, plus ce type de véhicule intéresse. Parce que la problématique de l'hybride, c'est que vous portez deux systèmes de motorisation. Un électrique et un traditionnel gasoil. Donc ça devient un véhicule plus lourd et une consommation de carburant un petit peu plus forte sur autoroute.
Sur autoroute, oui. Mais je fais ma consommation moyenne depuis l'origine de la voiture. Je mets ça sur Excel. Je suis à 5,4 litres au 100 km en moyenne sur 20 000 km.
Ouais, vous avez une conduite super apaisée, vous êtes un conducteur vraiment. Moi, j'ai envie de dire, dommage que je ne cherche pas un véhicule hybride comme ça parce que je l'aurais acheté. mais c'est toujours plus facile de trouver preneur. Vous voyez, l'hybride tel que vous l'avez, c'est vraiment un véhicule intermédiaire pour ceux qui font à la fois de la ville et du périurbain. Pas trop des longs trajets. Or, vous êtes sur une région de la France tout près de Auch où malheureusement, celui qui va peut-être vouloir vous acheter le véhicule est quelqu'un qui va chercher du long trajet majoritairement. Donc, c'est plus facile de les vendre tout proche des très grandes villes type banlieue toulousaine, banlieue bordelaise, banlieue parisienne.
Oui. Voilà. Vous savez, on n'est pas très loin de Toulouse, hein.
Non, c'est dans le Gers.
Bien sûr.
D'ailleurs, on écoute une radio sur le 102 à Auch, dans le Gers.
Oui,
bien sûr.
Tout à fait.
mais voilà, l'automobiliste qui vous l'achètera, ce véhicule, je reste prêt à parier que c'est quelqu'un qui viendra de la banlieue toulousaine. Vous verrez, j'en suis quasiment persuadé.
Bon, bah Charles, une dernière question que je me pose en tant que fille, parce que Charles, sa voiture est neuve, il va en acheter une autre neuve. Là, ça vaut pas le coup qu'il passe par la reprise concessionnaire, il perdra de l'argent, vaut mieux qu'il la vende par particulier.
La reprise concessionnaire chez Volkswagen d'un véhicule Peugeot 3008 me paraît assez complexe.
Oui, mais après, il peut les mettre en occasion. Mais de toute façon, il perdrait de l'argent. Vaut mieux qu'il. Parce qu'il reprenne encore en dessous, non ?
Et puis la concession Volkswagen ne va pas reprendre un Peugeot.
Ça dépend.
Ça va être difficile.
Dans le prix, vous tenez compte de toutes les options ?
Alors,
caméra de recul.
Ah non, vous ne me l'avez pas dit, donc moi je ne l'ai pas.
Ah, j'ai dit à la dame tout à l'heure.
La dame, c'est Lily qui vous accueille sur
Lily,
Sud Radio.
C'est Lily.
Voilà, au standard de Sud Radio.
Qu'est-ce que vous avez comme option dessus ?
Bon, le cuir. Bitton.
Ok. Donc vous
êtes. L'aide au stationnement, caméra de recul.
Je veux du cuir.
Ok. Donc ça, c'est très très bien.
Et toit panoramique.
Alors ça, c'est chouette. Ça facilite la vente. C'est pas pour autant que vous allez mettre 4000 euros de plus. Vous
mais par contre, le cuir, c'est quand même une option qui vaut cher. Et
oui,
quand on la vend, on peut pas gagner un peu de sous grâce à ça.
Mais il faut regarder il faut regarder, Laurence, comment situe le marché de l'occasion sur le même produit. Parce que si vous mettez votre produit 2 à 3000 euros plus cher que les autres, ok, il est vaut peut-être, mais il partira pas pour autant. J'ai regardé un peu ce qui se passe sur le marché de l'occasion. Ouais, vous pouvez pousser un petit peu. Tentez de la mettre un petit peu au-delà de 24 000 si vous le souhaitez. Mais je pense qu'à 23 900, vous êtes sur un très beau prix déjà.
Un
très beau prix. Et à la fois une très belle affaire pour celui qui l'achète parce qu'il a un véhicule neuf pour en gros 30% en moins de sa valeur en neuf. Donc ça vaut vraiment le coup.
Merci beaucoup Charles.
Merci beaucoup. Au revoir.
Passez un super week-end avec nous sur Sud Radio.
Je le fais. Merci beaucoup.
On vous adore. Une autre voiture dans quelques instants à estimer, Pierre.
Et vraiment, voilà, et un petit conseil que je vous donne à vous tous qui vous intéressez peut-être de près au marché des véhicules hybrides. Si vous êtes dans un contexte où vous mélangez de l'urbain avec du périurbain et pas trop de longs trajets dans votre année, alors la solution hybride sur le marché de l'occasion est une super solution, Laurence, parce que vous allez faire des économies. Ça marche bien et vous pouvez toucher les véhicules comme celui de Charles à 30 ou 40% de sa valeur neuve pour un véhicule qui est encore neuf.
Oui,
il a un an, il est encore neuf.
Alors, un mail qui est arrivé en message privé, hein, ce qu'on appelle les MP maintenant, vous savez, vous connectez, vous dites j'aime sur la page Sud Radio, ça roule et vous pouvez nous écrire. Et c'est Sylvie qui nous propose, alors là, moi je suis ravie que Sylvie nous ait envoyé ce message en privé, c'est une 2 chevaux Charleston. Ah. On peut estimer ces 2 chevaux, non, parce que là, franchement.
Ça vous plaît, ça.
Ah, mais oui, mais moi, c'est la Dodoche, enfin, excusez-moi, mais oui, j'adore.
Le bon véhicule historique comme ça, qui a une histoire et tout ça, ça vous plaît,
mais
Laurence.
Oui, mais vous savez que je rêve d'avoir une 2 chevaux. Alors, je vais vous expliquer concrètement, c'est pas trop une histoire de budget, quoique vous allez peut-être me refroidir ce matin, mais c'est juste pour ce genre de voiture, j'aimerais bien avoir un garage dans laquelle la parquer à l'abri. Je ne voudrais pas envie de la laisser sur un parking dehors. Donc, c'est ça qui me bloque pour l'instant.
Alors, ce n'est pas là que ça se vend. La 2 chevaux de Charleston, qui est très bien entretenue, vous n'allez pas la trouver, comme disait Eric de Caumont, sur le parking du Carrefour.
Oui, mais c'est pour ça que je n'achète pas la mienne. C'est parce que je n'ai pas un parking pour la garer la nuit. Vous voyez.
Alors, la 2 chevaux de Charleston, vous allez la trouver dans les prix. Il va falloir passer les 10 000 euros, Laurence.
Alors, je vous donne les caractéristiques parce qu'elle nous a tout mis, hein, Sylvie.
Ah, bah,
elle est de 1977. Elle a 60 900 km. C'est donc une 3 chevaux, boîte de vitesse mécanique et évidemment essence pour la Dodge Charleston de l'époque.
Moi j'ai envie de dire, ouais, de toute façon ce prix, après tout va dépendre de l'état d'entretien du véhicule, c'est ce que vous disiez, est-ce qu'il est intact ou pas. Il a l'air, 60 000 km,
oui.
Depuis un véhicule qui a 40 ans,
très
imaginez-vous,
bon état.
Donc c'est un véhicule que vous n'allez pas toucher, s'il est en très bon état, sa juste valeur c'est au plus proche du 15 000 euros.
Oui, quand même.
S'il est en mauvais état, mais ce dont je doute sur ces séries spéciales, on va dire de toute façon au-dessus de 10 000 euros, je vois
Eric de Caumont qui veut me réagir.
Eh ben, qui lui aussi est un passionné de 2 chevaux, parce que ça a été la première voiture de mes parents, donc moi ça m'a beaucoup marqué. J'ai fait de la 2 chevaux pendant très longtemps, y compris en tant que conducteur, et je peux vous dire qu'il y a une bonne nouvelle quand même pour les passionnés, parce que c'est pas facile d'en trouver d'occasion et en bon état. Et je peux vous dire qu'il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'il faut savoir que vous pouvez l'acheter neuve, cette voiture. Bah oui, parce que Citroën ne fabrique plus, mais ils ont cédé les droits, ils ont autorisé certains petits fabricants, petits artisans, à refabriquer totalement les 2 chevaux, les Méhari, les Diane, etc.
Mais comme elles étaient à l'époque, il n'y a pas la clim, il n'y a pas le GPS.
Non, absolument, comme à l'époque, mais avec des procédés de fabrication peut-être résistant mieux à la rouille, des choses comme ça, et vous pouvez acheter, allez voir sur internet, vous pouvez acheter des 2 chevaux neuves. Évidemment, ça ne sera pas le prix d'une voiture bas de gamme à l'heure actuelle, d'une voiture d'entrée de gamme, effectivement, sera plus cher, mais c'est possible et certains passionnés le font.
Voilà, c'est en tout cas une bonne nouvelle. Moi, perso, je préfère en acheter une qui a du vécu, hein, qui a une histoire, qui roule comme ça avec ses beaux bagages, oui, comme moi.
Des heures de vol, quoi.
Non, des heures de route.
Ça
roule sur Sud Radio, ça ne vole pas. Allez, on fait une pause et puis dans quelques instants, on va parler du prochain dossier. Faut-il interdire les avertisseurs radars, style Coyote ou Waze ou les autres? Eh bien, on en parle avec vous, Maître de Caumont, et puis également le président de Coyote qui sera avec nous au téléphone.
Autosécurité, votre contrôle technique en toute tranquillité.
Sud Radio.
Ça roule.
Pierre Chasseret.
Laurence Perrault.
Faut-il interdire les avertisseurs de radar? On en parle ce matin dans Ça roule sur Sud Radio jusqu'à à peu près 11h45. On en parle parce que c'est sorti. Gaspard, vous allez faire un point sur ce sujet dans quelques instants. Mais voilà, est-ce qu'on ne va plus pouvoir se prévenir les uns les autres grâce par exemple à des Coyotes ou à des Waze? Faut-il interdire les avertisseurs de radar? C'est quoi cette nouvelle lubie, Gaspard?
C'est ce que préconise Jean-Pierre Grand, sénateur LR de l'Hérault, qui veut rendre illégal le signalement des contrôles routiers sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les applications. Si je résume la situation, il vous restera l'appel de phare, car vous le savez, les brouilleurs et les détecteurs de radars sont interdits. Je vous rappelle quand même que les radars n'ont jamais autant rapporté, 789 millions d'euros l'année dernière. On peut donc se demander si c'est vraiment la bonne solution pour réduire la mortalité routière. Du côté des politiques Pour cette interdiction, ils mettent bien sûr en avant les récents chiffres de la mortalité routière, plus 30,4% de tués sur les routes en septembre 2016 par rapport à 2015. Du côté des détracteurs, on trouve que c'est une atteinte à la liberté d'expression et que la répression n'est pas la solution. Et puis, il faut quand même rappeler un chiffre, 20 millions, vous êtes 20 millions d'automobilistes à utiliser des applications qui signalent les radars.
Alors, faut-il interdire les avertisseurs de radars ? On va en parler avec Maître de Caumont, avocat spécialisé en droit routier, mais également d'autres invités touchés par cette proposition.
Touchés, profondément touchés et amalgamés, j'ai envie de dire, parce que quand on dit outil avertisseur de radar, ben moi ça me fait bondir. Non, il existe aujourd'hui, il n'existe plus d'avertisseur de radar. Il y a des outils d'aide à la conduite et nous sommes avec le plus célèbre d'entre eux, avec Fabien Pierlot de la société Coyote. Bonjour Fabien.
Bonjour à vous.
Bonjour Monsieur Pierlot, vous êtes le PDG, enfin le directeur de Coyote en fait, on peut le dire
comme ça. Le fondateur de Coyote,
tout à fait.
Voilà, fondateur, voilà, comme ça les choses sont claires.
Voilà, dites-moi Fabien, quand vous entendez encore un sénateur qui veut faire parler de lui, moi je l'entends comme ça, je vous dis tout de suite le fond de ma pensée à 40 millions d'automobilistes, il fait cette proposition pour passer à la télé, quand vous entendez un sénateur qui réactive un dossier qui a déjà été tranché mille fois et qui vous amalgame alors que l'État lui-même met des panneaux pour annoncer les radars, ça vous fait bondir ? Ça génère quoi en vous comme réaction ?
Bah, écoutez, vous avez tout dit. En fait, ça génère une réaction d'incompréhension complète parce que le sujet a été effectivement traité depuis bien longtemps en 2011 avec un décret qui a été confirmé par le Conseil d'État en janvier 2012 par, je rappelle quand même, la plus haute autorité administrative de la France. En étant très clair, en disant les avertisseurs sont interdits, les assistants de la conduite sont des outils communicants permettant aux automobilistes de s'informer entre eux et en temps réel de zones à risque, de zones de danger. C'est ni plus ni moins qu'un outil d'information. Ce sujet est déjà traité depuis 5 ans et je pense qu'effectivement, à l'approche des élections présidentielles, eh bien, il y a quelques personnes dont la question est dépassée et relancent ça régulièrement avant les vacances, alors qu'il n'y a plus de sujet et que c'est le sens de l'histoire que de savoir que toutes les automobiles, dans 10 ans, si on se projette un peu plus loin, dans 10 ans, elles seront toutes communicantes, toutes les voitures sont de car à car, et ainsi tous les automobilistes parleront entre eux. C'est comme la CB 2.0. Donc le sujet, il n'y en a pas. Simplement, je crois que c'est effectivement à la veille des départs en vacances qu'on aime bien relancer ce type de sujet.
Alors, c'est ce que vous dites. Hein. Vous dites les voitures, elles vont être connectées. Vous avez même signé avec un constructeur récemment, là, qui va les intégrer directement.
En fait, le sens de l'histoire de la voiture autonome, de la voiture connectée, celle qui roule toute seule, vont nécessiter nécessairement une communication et une connexion entre les automobilistes et entre les automobilistes. Et ce que l'on voit, on l'a vu récemment avec le salon de l'auto, c'est que on s'intègre, nous, directement chez le constructeur automobile qui connecte sa voiture de manière à ce qu'on puisse éviter justement dans les années qui viennent des accidents et des collisions. Et nos outils sont des outils extraordinaires de sécurité routière puisqu'ils permettent aux automobilistes d'être informés avant d'un éventuel incident qui va se produire sur leur chemin. Et c'est ça.
Reconnu par le délégué interministériel. Reconnu par le délégué interministériel à la sécurité routière. J'ai lu avec attention.
Voilà.
Il le confirme.
Fabien Pierlot, restez avec nous parce que je voudrais aussi avoir la réaction de Maître de Caumont qui est avec nous, avocat spécialisé en droit routier. Ça dépasse l'entendement, surtout qu'on sait que le groupe Facebook qui te dit où est la police en Aveyron a gagné en cassation. Donc on marche sur la tête là, ces histoires d'interdiction de...
Bah écoutez, permettez aux vieux... À celui
au
qui effectivement... Bah oui, non, mais au premier avocat spécialisé dans le droit de l'automobile depuis maintenant 33 ans, ça ne nous rajeunit pas.
L'âge du Christ.
Bah exactement, j'espère qu'on ne va pas nous crucifier, nous les automobilistes, de vous rappeler que c'est un vieux combat, un très vieux combat. Vous savez que les appels de phare dont parlait Gaspard tout à l'heure ont été déclarés légaux en 1974, ça ne nous rajeunit pas. Et qu'après, après ils ont essayé d'interdire la CB quand il y a eu la CB. Et puis après ça, ils ont essayé d'interdire les assistants d'aide à la conduite, dont M. Pierlot est l'un des fondateurs, puisque c'est le plus répandu, je crois, le Coyote, je connais bien. Et après ça, ils ont essayé d'interdire les réseaux sociaux, et qui effectivement signalaient où étaient les emplacements. Alors, moi, je pense qu'il y a un vrai problème, c'est que soit les radars sont là pour faire de la prévention, de la sécurité routière, ils sont placés aux endroits dangereux. Et dans ce cas-là, il n'y a aucune raison de se gendarmer du fait que des moyens permettent de situer où ils se trouvent, puisque ça va dans le sens de la sécurité. Je vous rappelle que c'était la motivation de la jurisprudence sur les appels de phare en 1974, il y a 42 ans, à savoir que les automobilistes qui faisaient des appels pour signaler les contrôles de vitesse étaient des assistants, des auxiliaires de police en quelque sorte, puisqu'ils aidaient à rendre efficaces ces contrôles. C'était la motivation des juges, il faut quand même s'en rappeler. Ou bien on reconnaît que les radars sont là pour faire du fric. Je vous rappelle que le même jour, Gaspard le disait tout à l'heure, où on a annoncé qu'il y avait plus 30% d'accidents mortels, on nous a dit, et dans le budget 2017, on a déjà prévu qu'on va rentrer 25% d'argent en plus grâce au nouveau radar.
Alors bon. On continuera d'en parler évidemment de ce sujet. Hein. Faut-il interdire les coyotes, les Waze, les assistants d'aide à la conduite qui proposent de savoir où sont
les
radars
panneaux.
Et les panneaux. Ce sera dans quelques instants sur Sud Radio.
Autosécurité, votre contrôle technique en toute tranquillité.
Sud Radio.
Ça roule.
Pierre Chasseret.
Laurence Perrault.
Faut-il interdire les avertisseurs de radar, quels qu'ils soient, puisque Jean-Pierre Grand, sénateur de l'Hérault, propose de rendre illégal le signalement des radars et autres contrôles routiers par le biais des assistants à la conduite de type Coyote, de type Waze, ou même d'enlever carrément les panneaux qui nous préviennent de la présence d'un radar. On continue d'en parler, Pierre, avec nos invités, Maître de Caumont, qui est avocat spécialisé en droit routier, et puis Fabien Pierlot, qui est un des présidents et fondateurs de Coyote, qui est bien connu.
Oui, et puis je vais aller plus loin, je parlais d'amalgame tout à l'heure, parce que je doute que Jean-Pierre Grand ait déjà utilisé un coyote entre ses mains. Parce que je voudrais quand même lui rappeler ce que c'est qu'un outil d'aide à la conduite aujourd'hui. Alors évidemment, bien sûr qu'il y a des zones de danger, que dans ces zones de danger, parfois il y a un radar. Ou pas d'ailleurs, ou pas. Mais je voudrais, Fabien, que vous reveniez auprès des automobilistes qui connaissent peut-être pas encore vos produits, sur ce qu'est aujourd'hui le fond d'un outil d'aide à la conduite communicant.
D'abord la technologie, parce que M. Grand devrait aller plus loin en disant qu'il faut interdire tout objet de communication dans la voiture, parce que nos systèmes sont une technologie comme les téléphones. C'est exactement la même chose. On envoie une information, on appelle quelqu'un pour lui dire « je viens de passer devant un élément, devant un bouchon, un accident ». Nos produits, en permanence, pour l'ensemble des utilisateurs, informent de la limitation de la vitesse à respecter sur l'ensemble du territoire et sur même presque 20 pays en Europe. Et ce sont des outils qui vous permettent, au-delà d'avoir la limitation de la vitesse, de savoir quand est-ce que vous la dépassez. Tous nos utilisateurs nous le disent, je ne peux plus perdre de points de permis de conduire, mon permis de conduire également, permis de travail, et grâce à cet outil-là, je connais la limitation de la vitesse en permanence. Ensuite, effectivement, comme vous l'avez très justement souligné, l'ensemble des radars fixes sont présentés par des panneaux, puisque l'objectif, c'était de ralentir lors de zones accidentogènes, de endroits qui sont dangereux. Reste à savoir si l'ensemble des radars fixes sont positionnés dans des zones dangereuses. De temps en temps, j'en doute lorsque je vois qu'il y a un radar fixe, qui est sur autoroute, en pleine ligne droite. On ne sait pas pourquoi il est là. Donc, c'est la question. Mais donc, on informe en fait de la limitation de la vitesse et les utilisateurs Coyote, à hauteur de 80%, remontent des informations qui sont du type bouchon. Il y a un accident. Il y a un véhicule arrêté sur la voie. Il y a un contresens, un véhicule en contresens. D'ailleurs, je tiens à souligner qu'en dehors de la France, où nous sommes présents en Europe, on fait des partenariats avec les gouvernements et les ministères des Transports, notamment en Belgique, où la police a la main sur nos produits pour informer en temps réel l'ensemble des automobilistes qu'il y a un accident. Ça permet en fait de remplacer le panneau de signalisation que vous avez de temps en temps sur le périphérique ou sur votre trajet et d'anticiper à l'automobiliste. Et un automobiliste averti, pour nous, on vaut 10. Et c'est les clients qui le disent.
Éric, de comment vous voulez réagir?
Ben juste une remarque pour aller dans le sens de ce que dit Fabien Pierlot tout de suite et de ce qu'a dit Pierre Chasseret il y a quelques minutes, à savoir, je cite, le délégué interministériel à la sécurité routière, qui n'est pas toujours d'accord avec nous en matière de répression routière, je tiens à le signaler, et qui l'a dit très clairement, ouvrez les guillemets, ces outils peuvent aussi être de précieux atouts pour la sécurité routière quand ils indiquent les limites de vitesse ou les ralentissements. Je pense que tout est dit et que notre ami sénateur ferait mieux de réfléchir avant de dire n'importe quoi.
Moi, quand j'entends Emmanuel Barbe, le délégué interministériel, dire ça, je dis bravo, monsieur Barbe, vous avez tout compris.
Dernière question, Fabien,
oui,
avant de vous remercier.
Oui,
juste une chose, économiquement, si jamais ce genre d'ineptie passait, mais enfin, des fois, vous savez, on marche sur la tête sur d'autres choses, donc on n'est pas à l'abri. J'imagine qu'économiquement, ce serait la mort de Coyote.
Du tout, parce qu'on est présent dans tous les pays en dehors de la France. C'est que la France qui se pose encore la question de savoir si on doit interdire ou autoriser, puisque tous les autres gouvernements des autres pays travaillent en collaboration avec nous. Donc on irait s'installer malheureusement ailleurs. On rappelle que les Coyotes sont des produits qui sont fabriqués en France, que l'on exporte, qui est une start-up à l'époque, il y a une dizaine d'années. Et je voudrais juste faire une petite analogie sur la courbe de la baisse de la mortalité sur les routes depuis 10 ans. Et on existe, nous, depuis 10 ans. Et on a une explosion de nos utilisateurs. On est près de 20 millions, effectivement, avec des applications américaines et des applications Coyote. Et on voit clairement que les utilisateurs et les statistiques montrent que ces outils qui permettent justement d'anticiper et d'éviter de regarder son compteur de vitesse en permanence, et d'être beaucoup plus vigilant sur son environnement et sa conduite, et que ça participe, et comme le dit M. Barbe, effectivement, notre délégué interministériel, que ça participe à la sécurité routière.
Merci beaucoup Fabien Pierlot. Je rappelle que vous êtes président et l'un des fondateurs de Coyote. Merci d'être intervenu dans ce rendez-vous. On va en continuer à en parler évidemment. Et ça y est, la bonne nouvelle, Pierre, c'est que notre super équipe de
0826.
Et voilà, le standard est de nouveau en marche. Et on accueille tout de suite Serge qui veut réagir à ce sujet. Faut-il interdire les avertisseurs de radar? Bonjour Serge.
Bonjour à tout le monde, bonjour.
Non, merci,
il faut pas les interdire,
ça
sert pour la conduite. Moi, je suis chauffeur VTC, je fais en gros 80 000 km par an. Et voilà. Bon, je me sers de OAS et franchement, ça m'aide à la conduite, ça m'aide pour pas mal de choses quand il y a des problèmes aussi sur la route. Il n'y a pas que le radar, si vous voulez. Mais voilà, je pense que ce sénateur, lui, il doit avoir un chauffeur qui le conduit, qui le promène un peu partout. Et donc, il n'a pas ce problème au niveau de la conduite. Moi, quand je vois, moi, pour moi, personnellement, la conduite, où il faut toujours avoir quand même un permanence et les yeux sur le compteur, parce que finalement vous conduisez avec une pression, la pression de perdre votre permis, de perdre vos points, d'avoir un PV, vous êtes toujours en train. On n'est pas détendu à la conduite, personne n'est détendu à la conduite. Alors,
je vais vous poser une question. Quand vous circulez, quand vous avez votre Coyote ou autre, je sais, vous utilisez un outil d'aide à la conduite?
Moi, j'ai OAS, je viens de vous dire, je me sers de OAS en permanence, voilà. Parce que déjà pour trouver les adresses, parce que quand j'amène un client à un endroit, on ne connaît pas toute la France parfaitement, mais ce que
quand vous l'utilisez, que vous voyez sur la route qu'on vous annonce qu'il y a une zone de contrôle de vitesse, notamment vous ralentissez, on est bien d'accord?
Oui, mais si vous voulez, déjà, moi, je suis pas un fou de la conduite. J'essaie de conduire normalement. Quand, vous voyez, quand je prends l'autoroute, pour 130, je me mets à 128. Vous voyez? Donc, je ne cherche pas du tout à aller au-delà, si vous voulez. Moi, j'essaie d'être prudent au niveau de la conduite. Mais moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut arrêter de mettre une pression routière en permanence sur les gens qui conduisent, quoi. Parce que ça devient aberrant. On a tellement peur que les gens, si vous voulez, ont tellement peur au niveau de la conduite, c'est là qu'ils font des bêtises. Parce que cette pression au niveau de la conduite qu'on met en France en permanence, eh bien ça effraie les personnes qui conduisent. Et c'est souvent là qu'arrive l'accident aussi. Hein. Parce que vous êtes toujours en train de regarder votre compteur, votre route. Vous n'êtes pas détendu à la conduite. C'est ça qui est dangereux.
Mais en tout cas, merci Serge d'être intervenu sur Sud Radio et donner votre avis au 0800 26 300 300. Maître de Comont, de Serge.
Serge a parfaitement raison. On est dans un pays où en fait, on culpabilise l'automobiliste. Où on lui fait porter, je dirais, a priori tous les maux, où on n'a pas compris ce que les Anglais et les Allemands comprennent depuis bien longtemps. Les Anglais qui ont de bien meilleurs chiffres de sécurité routière que nous, il faut quand même savoir, et 40 millions d'automobilistes avaient levé ce lièvre, avaient révélé ce fait, que les Anglais enlèvent les radars automatiques parce qu'ils ont compris que ça ne servait à rien pour améliorer au-delà d'un certain stade la sécurité routière. Je vous rappelle qu'on est quand même limitrophe d'un pays, l'Allemagne, où la vitesse est libre sur autoroute depuis 40 ans et où ils ont parfaitement survécu. Ils ne sont pas tous morts, au contraire, ils se portent même plutôt bien et leur économie automobile se porte merveilleusement bien aussi.
Et les chiffres des accidents sont meilleurs.
Et les chiffres des accidents, c'est par là que j'aurais dû commencer, vous avez raison Pierre, sont effectivement excellents aussi en Allemagne. En d'autres termes, le vrai problème, et moi je le dis, je dirais solennellement, c'est une escroquerie intellectuelle depuis 40 ans en France qui fait qu'on essaye de faire croire que la responsabilité pèse sur les automobilistes du fait de leur inconduite, que s'il n'y a pas des radars partout, ça va être une boucherie sur les routes françaises, alors même que tout ça c'est une question, et je pèse mes mots, de fric, je vous l'ai dit tout à l'heure, on budgète à l'avance 25% de rentrées supplémentaires, on va passer le milliard d'euros grâce aux seuls radars automatiques, parce que effectivement, on cherche avant tout à rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, mais faire de la prévention, de la formation, de l'éducation, c'est pas leur problème, parce qu'effectivement, ça paye à long terme, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est effectivement culpabiliser l'automobiliste en lui donnant le sentiment que tout vient de sa faute et en faisant passer du coup, grâce à cette culpabilité, la répression accrue et la fiscalisation, si j'ose dire, de la conduite automobile. Et ça, c'est un problème fondamental. Le jour où les politiques français commenceront à comprendre ça, je pense qu'on aura des chances d'améliorer la sécurité routière. Je vous rappelle que, selon toute vraisemblance, pour la troisième année consécutive, ce qui s'est pas vu depuis 40 ans en France, nous avons une remontée de la mortalité routière alors que le nombre de radars augmente chaque jour. Je crois que la preuve est faite. Malheureusement, il y a y a des politiques qui n'ont rien compris et les gens sur le terrain, les politiciens sur le terrain. Un sénateur, il n'est pas élu directement, il faut le rappeler, par les gens, par les électeurs. Il est élu par des grands électeurs. Et un suffrage indirect, ça veut dire qu'il est élu par d'autres politiciens. Et à mon avis, ce n'est pas un hasard. Mmh. Si effectivement, il y a un problème de déphasage entre certains politiques et la réalité du terrain. Et je peux vous dire que dans les permanences des élus locaux, ça gronde depuis déjà plusieurs années parce que les gens disent « Moi, j'ai perdu mon permis de conduire pour des petites infractions de rien du tout à un point, à deux points, à trois points. Je suis au chômage, vous faites quoi pour moi ?» Et ça, c'est une réponse que les politiciens devraient essayer d'apporter autrement qu'en réprimant.
Faut-il interdire les avertisseurs de radar? On en parle ce matin sur Sud Radio. Ça roule et on va accueillir également un spécialiste, Pierre.
Oui, bonjour Carlos Zou.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Vous êtes... Bonjour.
Voilà, vous êtes notre spécialiste un petit peu des applications connectées. Dès qu'on a une application connectée, on vous appelle vite au secours pour nous dire, pour nous faire le vrai du faux. Carlos Zou, je voudrais vous poser cette question très simplement. Interdire les applications connectées, non mais c'est possible ou pas?
Ça va pas dans le sens de l'histoire, Pierre. On entend beaucoup parler de véhicules connectés, on entend beaucoup parler de véhicules autonomes, on entend l'amélioration de la sécurité qui va être apportée par tous ces dispositifs, et aujourd'hui, on a un sénateur qui tombe de l'arbre et qui nous dit non, non, ça c'est pas possible, on va retourner au Moyen-Âge, et on va considérer en plus de ça qu'on va remettre un policier tous les 10 km pour pouvoir fliquer les Français, et les Français n'attendent pas ça.
Dites-moi, vous-même, quand vous entendez les propos de Fabien Pierlot de Coyote nous dire, voilà, nous on participe à la sécurité routière, il y a des zones où on nous a collé un radar, on comprend même pas pourquoi, il n'y a pas de danger à ce niveau-là, est-ce que vous êtes favorable à l'interdiction des applis connectées ou même des outils d'aide à la conduite communicants?
Non, Fabien a raison, il faut absolument garder ces applications. Bon, Coyote est le plus bel exemple, c'est une belle réussite, c'est une information de qualité. Et aujourd'hui, Coyote délivre bon nombre d'informations bien au-delà de la vitesse. Il l'a rapidement expliqué tout à l'heure, les bouchons, les accidents, les pannes mécaniques, les événements météo. Tout ça, c'est très important dans notre quotidien. Et puis, rappelez-vous quand même une chose, Pierre, on a aujourd'hui des zones sur lesquelles, en l'espace de 500 mètres, vous avez trois changements de limitation de vitesse. Aujourd'hui, un produit comme Coyote va vous annoncer ces changements successifs de vitesse et va vous permettre aussi de réduire votre vitesse. Donc par conséquent, non, bien sûr, il ne faut pas les interdire. Au contraire, il faut en faire la promotion et je pense même, bien au-delà, permettre à tous ces acteurs d'avoir de nouvelles informations qui pourront venir enrichir leur dispositif et donc par conséquent, faciliter la mobilité des conducteurs automobiles.
Carlos Zou, de toute façon, à l'heure où ça galope au niveau de haute technologie et ça va très très vite, concrètement, on ne pourrait pas les interdire, on ne pourrait pas les enlever, il y aurait du piratage. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on ferait ça dessous le chapeau, mais ça va trop vite maintenant.
Oui,
l'évolution
vous avez
est
raison,
trop en marche.
Oui, vous avez raison, Laurent, ça va beaucoup trop vite. Les Français, entre autres, se sont habitués à utiliser maintenant ce type de dispositif. Les constructeurs automobiles aujourd'hui demandent que ces dispositifs viennent s'intégrer en effet dans les véhicules. Aujourd'hui, vous avez également les opérateurs, les opérateurs autoroutiers notamment, qui collaborent avec ces sociétés-là pour également avoir de l'information et rendre les autoroutes encore plus sûres. Et puis attendez, le comble quand même, c'est qu'aujourd'hui, vous avez sur les stores Apple et Android, donc des applications qui s'appellent Park Patrol ou Stop Pervenche, où là, vous avez des alertes qui tombent en permanence pour lutter contre la verbalisation en voirie. Oui,
stop
exactement.
Et faire ça existe.
Bien sûr, ça existe. Et faire en sorte que là, vous êtes en urbain et en périurbain, là où se passent les attentats, c'est quand même le sujet de ce sénateur. Et avec ces applications-là, bien sûr que vous allez prévenir de la présence des forces de l'ordre. Donc je crois en effet que le débat doit être rapidement clos. Il est bien sûr, à mon sens, hors de question de pouvoir demain supprimer toutes ces applications qui sont devenues d'utilité publique, tout simplement. Elles servent aujourd'hui à contribuer à la sécurité des personnes qui, chaque jour, roulent sur toutes les routes de France.
Carl, j'ai une dernière question pour vous. Vous voyez venir, vous voyez monter toutes ces applications connectées qui sont intégrées dans les véhicules. Fabien Pierlot nous expliquait d'ailleurs qu'il a signé avec des constructeurs pour que l'outil soit directement intégré dans le véhicule. Est-ce que l'avenir de l'auto, c'est justement de faire intégrer toutes ces applications? Et selon vous, est-ce que demain, dans quelques années, tous les véhicules neufs sur le marché seront équipés de dispositifs de ce type-là en applications connectées?
C'est certain, Pierre. C'est absolument certain. On a vu de belles avancées cette année avec le Mondial de l'Auto, qui a été également une très belle réussite, sur lequel, justement, le côté numérique, le côté application connectée était un des sujets phares défendus par Jean-Claude Giraud. Et je crois qu'il a raison.
Incontestablement,
l'histoire va en ce sens. Et bien sûr, aujourd'hui, on va retrouver dans les véhicules des stores et des applications qui seront vraiment dédiées à la mobilité. Donc on va parler sécurité, on va parler tourisme, on va parler confort, gastronomie. Et il est évident que le véhicule en tant que tel va enfin trouver toute la richesse nécessaire d'informations pour rendre la route la plus agréable. Et là, très honnêtement, toutes ces applications apportent tout cela. Et on est tous aujourd'hui addicts, quelles que soient les générations, on est tous addicts à notre smartphone pour justement nous permettre de trouver l'information dont nous avons besoin. Maintenant, bien sûr, prudence. On évite de téléphoner au volant, on évite d'envoyer des SMS au volant.
Karl, non, on va être honnête. Non, on n'évite pas. Les derniers chiffres, ils sont dramatiques sur la façon dont les gens utilisent leur portable, envoient des SMS au volant, etc. Donc là, on ne peut pas non plus être dans l'angélisme complètement. Merci beaucoup, Karl Ozou.
À très bientôt. Merci, au revoir.
Merci beaucoup, Karl Ozou, qui est généralement aussi l'un de nos invités sur Sud Radio, ça roule, puisque c'est le créateur de Good Angel. On aura l'occasion de vous en reparler. Éric de Comont, je voudrais revenir. On a un peu le temps, donc on va le prendre. Vous avez dit quelque chose qui m'a un peu surpris tout à l'heure en disant, depuis quelques années, voilà, malheureusement, les chiffres de mortalité et d'accidents graves remontent. Est-ce que c'est pas... Oui, je vais vous faire hurler, Pierre, mais je suis aussi un peu
non,
là
mais
pour
j'attends.
Ça.
Vous avez vu, je suis dans les starting blocks,
ouais,
mais
j'attends. Là, je vous sens bien là. Est-ce que c'est pas aussi à cause de tous ces outils d'aide, de savoir que bah, on va savoir où vont être les flics, où vont être le radar. Du coup, bah, on les évite, mais après, on recommence à conduire mal ou trop vite.
Alors, encore une fois, c'est un problème philosophique.
C'est ça l'origine
Est-ce
de
que
la,
ce
du
sont
sénateur.
Les radars qui permettent de faire baisser la mortalité?
Ah,
est-ce
merci,
que ce sont
Eric.
Les limitations de vitesse qui permettent de faire baisser la mortalité? Je vous l'ai dit tout à l'heure, les Anglais qui ont 10 ans d'avance sur nous en matière de sécurité routière et de résultats en matière de sécurité routière, les enlèvent. Les Allemands qui ne mettent pas de limitation de vitesse et encore moins de radar et pour cause sur les autoroutes ont de meilleurs chiffres que nous.
Les Espagnols.
Il y a une escroquerie générale intellectuelle en France et avec un consensus de la gauche et de la droite sur le sujet, sur le fait que ça serait la vitesse qui serait la mère de tous les maux, ce qui fait que depuis 40 ans, on ne s'est pas occupé de prévention, on ne s'est pas occupé de formation, on ne s'est pas amélioré la sécurité passive et active des véhicules. En tout cas, on est beaucoup moins en pointe que certains autres pays comme les Allemands. Et du coup, on ne s'occupe pas assez de l'alcoolémie, on ne s'occupe pas assez de causes graves d'insécurité routière parce qu'on s'est focalisé sur la vitesse, alors qu'une vitesse inadaptée est bien sûr une vitesse dangereuse, mais que la limitation de vitesse, telle qu'elle est traitée avec la répression qui va derrière, n'est pas une panacée universelle.
Laurence, vous avez entendu, la réponse à votre question tient dans les mots de Fabien Pierre-Laude Coyotte. Le produit existe depuis plus de 10 ans. Le produit était là pendant la chute de la mortalité routière. Le produit s'est étendu pendant cette période. C'est donc la preuve par A plus B qu'au contraire, ces produits participent à la sécurité routière.
Maître de Comont, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie.
C'était un plaisir.
Ah bah que j'espère qu'on renouvellera. Et plaisir également pour l'équipe Sud Radio. Ça roule. Allez, 11h44, dans quelques instants, on accueille Alexandre Després. Alexandre Després qui nous parlera de ses brèves de volant et puis de cette aventure télé qui commence à partir de lundi soir sur M6 grâce à ces brèves de volant. À tout de suite.
Autosécurité, votre contrôle technique en toute tranquillité.
10h, midi.
Sud Radio.
Ça roule.
Et nous continuons évidemment pour notre dernier quart d'heure, que dis-je, même il nous reste 13 minutes dans Sud Radio, ça roule, pour être en votre compagnie, l'émission qui s'occupe, se préoccupe des usagers de la route, mais aussi eh ben, de ceux qui la font vivre de façon un peu différente. Ce sera notre rendez-vous, Pierre et Gaspard, à ce moment de l'émission. Alors on va accueillir tout de suite Alexandre Després, on le connaît bien, Pierre-Alexandre, hein, on va être honnête.
Oui, on le connaît même très bien, Alexandre c'est devenu un ami, il a les clés de la maison maintenant.
Alexandre Després, petit CV, motard de la police nationale, qui n'arrête pas de faire des pompes sur Facebook en ce moment. Parce que...
Le challenge.
Revenons aux choses sérieuses. Donc, motard.
Oui, motard, voilà, au sein de la préfecture de police de Paris.
Oui, c'est ça, parce qu'à la limite, motard, bon, ok, mais motard, celui qui met les contredanses. Hein,
aujourd'hui, j'ai changé de service, je suis toujours en deux roues, effectivement, mais je n'ai plus les bottes en cuir et la tenue.
Donc, normalement, à la base, on ne devrait pas vous aimer. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment ça se fait qu'on a réussi à inverser la tendance? Et comment ça se fait qu'on aime Alexandre Després? Ben parce qu'il publie, plusieurs brèves de volant sur les anecdotes notamment que vous avez rencontrées sur les routes avec des automobilistes pas toujours de bonne foi.
Et d'ailleurs, je vais tout de suite l'annoncer, Pierre, c'est qu'on va offrir une brève de volant ce matin, enfin une brève, le livre qui est aux éditions du Cherche Midi, on l'offre, voilà. Donc vous appelez, le premier d'entre vous qui appelle et qui arrive au 0826 300 300 recevra son livre, les livres d'Alexandre Després. On va évidemment parler de l'aventure télé qui commence à partir de demain soir sur M6, mais je voudrais vraiment qu'on revienne sur ces brèves de volant. Qu'est-ce qui vous a donné envie de les écrire? Enfin, c'est un vrai joli succès, puis surtout ça détend bien.
Bah en fait, dès que j'ai pris mes premiers tours de roue au guidon d'une moto de police et à écouter les excuses des gens, j'ai pas pu m'empêcher en fait de noter quotidiennement leur réponse, leur mauvaise foi, les anecdotes, d'écouter les copains dans les vestiaires, d'avoir des retours par mail, par SMS aujourd'hui de plein de policiers. Et c'est très drôle, voilà, de faire ressortir...
Alors j'en ai une, Laurence, parce qu'on en parlait en début d'émission, je peux pas... Nous stationnons devant une compagnie de CRS, donc vous, hein, voilà.
Oui, les moteurs.
En attente d'une escorte, un homme à pied sur le trottoir s'approche de nous pour nous poser une question de bon sens. Et là, je regarde Eric Decaumont, je sens que ça va le passionner. Si tu prends ta voiture... Alors, dites, monsieur, si tu prends ta voiture, mais que t'as plus de permis, ça devient une voiture sans permis. Donc, tout comme les voitures sans permis, donc je peux rouler.
Ça, c'est très, très, très bouillant, ça.
Oui, non, il confond le pilote sans permis et la voiture sans permis, à
vous
mon avis, le monsieur.
Vous avez compris que Maître Decaumont est resté avec nous parce qu'il voulait les entendre, ces brèves de
volant. C'est succulent. Hein.
C'est succulent. Un homme ne trouvant pas de place de parking s'approche de nous, ouvre sa fenêtre. Nous, donc, évidemment, la marée chaussée, comme on disait avant, ouvre sa fenêtre en souriant et nous dit « Je me gare là et je vous laisse les clés.
» Attends, celle-là, elle est énorme. Monsieur, j'ai la gangrène dans ma jambe de gauche, alors c'est difficile d'utiliser la pédale correctement pour arriver à faire un arrêt appuyé sur la pédale.
Voilà, et comme ça on grille les stops.
Moi, je trouve ça pas mal.
Comment je pourrais dire les choses? C'est qu'il n'y a pas de limite à l'imagination. Oui, je vais l'oser, de la mauvaise foi pour éviter le PV, quoi.
Ah, c'est complètement farfelu, oui. Bon, après, c'est pas quotidien non plus. Hein. On a une histoire drôle comme ça, peut-être tous les deux jours. Mais il suffit juste de tendre l'oreille, de poser des questions ouvertes aux gens et de les regarder. Et on se rend compte et on écoute. Et voilà, il n'y a plus qu'à noter après.
Alors, je disais en préambule, à partir de lundi soir, je me suis trompée parce que demain, c'est dimanche, excusez-moi. Je vais trop vite. À partir de lundi soir, il y aura un programme court sur M6.
Tout à fait.
Cocorico, M6. Bref, de volant. Et vous avez tourné là ces derniers jours, racontez-nous comment ça s'est passé.
Alors on a tourné début octobre, on a tourné 20 sketchs, voilà, ça a duré une semaine de tournage. Là on a le réalisateur qui est en plein montage, Éric Périsset, qui fait un travail succulent. Il y a d'ailleurs M6 qui m'a téléphoné pas plus tard que lundi pour nous remercier en fait du projet et du travail qui a été fait.
Ça s'est passé comment? Quel brève avez-vous sélectionné?
Alors en fait, on a écrit avec un auteur et donc on a fictionné un petit peu. On part de la base des livres. Là, pour la télé, on fictionne légèrement. On rajoute un petit peu de commentaires dans la bouche des automobilistes. Mais voilà, on a relevé différentes infractions, différents comportements. Il y a quelqu'un qui se gare. Vous avez peut-être tous vu sur Internet la photo de la voiture qui est garée sur une place de roues et qui a mis deux roues sur sa voiture. Deux roues sur la place. Bon, voilà, on a fait un sketch sur ça. On a fait un sketch d'ailleurs avec « Je vous passe les clés ». On a fait un sketch sur les excès de vitesse, sur l'alcool au volant.
L'alcool au volant, tiens, parlons-en, j'en ai un. Est-ce que vous l'avez tourné celui-là? Lors d'un contrôle routier, nous faisons souffler un automobiliste. Son taux est délictuel, donc Maître Decaumont au-dessus de
0,40 dans l'air expiré.
Donc il nous dit alors, monsieur, je sors d'un pot de départ. Donc votre réponse, un pot de départ de mutation, de retraite? Non, non, de mon dernier jour chez les alcooliques anonymes.
C'est énorme.
Je voudrais qu'on rentre aussi un peu dans ce que votre métier avant, quand vous étiez sur la route, au contact comme ça des usagers de la route. En règle générale, bon là il y a des petites brèves souriantes, mais quel est l'accueil des gens? C'est quand même toujours très peureux, c'est agressif.
Le motard c'est un peu une race à part. C'est vrai qu'on est en moto, on a des bottes, on n'est que deux. Et on a un respect, je pense qu'on est plus respecté que la plupart des policiers, même si tout le monde fait son travail correctement. Et on est bien vu, oui, on est les chabotés. Alors après, ça dépend, c'est vrai qu'on a des automobilistes qui nous disent, quand ils nous voient mettre la béquille, aïe, 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 quand vous mettez la béquille, c'est mort. On va manger, on va prendre un PV. Bon, pas forcément, mais c'est vrai que, ouais, on est à l'écoute, on peut très bien faire de la prévention et...
On a perdu Pierre, il est plongé dans les bras de volant.
Non, parce que je l'imagine, celle-là, elle est énorme. Donc, je suppose que c'est quelqu'un qui vous a arrêté, mais je vous demandais un complément d'information parce que j'ai trouvé des lignes. Tiens, en deux lignes, elle est géniale. Je suis suivi, on va me casser la gueule.
Oui, ou on a voulu m'égorger. Oui.
Est-ce que les femmes sont, je vais assumer le mot que je vais employer, non je l'assume pas en fait, non pas ça
dragueuse.
Du tout, non j'allais dire, bon je vais l'assumer, vicieuse dans les mauvaises foi, dans les excuses, ou est-ce que l'homme est plus doué que la femme pour trouver des mauvaises excuses?
C'est 50-50, les femmes font autant de bêtises au volant que
les
hommes.
Ah oui, mais ça je suis d'accord, mais dans l'imagination.
Non, c'est pareil, ça dépend des caractères, on a des femmes qui essayent de charmer un petit peu, on a des femmes qui ont la larme facile, qui pleurent en fait, et qui, bon pour rien du tout, pour une non-présentation de permis de conduire, un petit procès de 11 euros, elles vont se mettre en larmes comme si elles avaient appris un décès.
Vous vous êtes déjà fait charmer?
Oui, mais ça marche pas avec moi, non.
Et
non.
Vos collègues?
Non plus, non. On est professionnels.
Oh non.
Alors si on donne notre 0,6 à chaque fille qui nous fait un clin d'œil,
votre femme va le voir.
Maître Decaumont, vous qui êtes avocat spécialisé en droit
routier. Oui, je donne mon 0,6 à personne. Mais bon,
est-ce que vous avez aussi comme ça quand vous rencontrez des gens qui viennent vous voir, des brèves, des choses absolument croustillante.
Ah mais moi je confirme totalement ce que nous a dit notre ami tout de suite, parce qu'effectivement, moi j'entends des choses, parce que les gens ils s'excusent, ils me disent auprès de moi, vous comprenez, j'ai fait ça, faut me défendre, je suis poursuivi devant le tribunal, mais alors si je l'ai fait c'est parce que, et je peux vous certifier l'authenticité de ce qu'il y a dans ces brèves, parce qu'effectivement j'en entends moi aussi, pas en direct, pas à chaud, parce que je les interpelle pas sur le bord de la route, mais après réflexion il y a des gens qui me montent des histoires absolument phénoménales, je leur dis vous savez, si on plaide ça devant le tribunal, on va se mettre en vrac là. Hein. C'est pas jouable. Il faut tenter autre chose. Mais ça, je vous le conseille pas. Mais c'est vrai qu'il y a des choses. Enfin bon, voilà. J'ai vu un martien atterrir. C'est pour ça que j'ai pris peur. J'ai accéléré quoi.
Bip, bip.
Bon, c'est stupéfiant. Mais je crois qu'il y a pas de limite. Hein.
Alors je vais vous dire celle-là. J'ai pas le talent de Coluche pour les raconter. Mais je peux vous dire qu'elle en est digne. Bonjour monsieur. Vous allez souffler dans l'éthylotest. Ah ben non, je peux pas. Je suis asthmatique. Le policier étonné lui dit qu'il va être obligé de les faire suivre jusqu'à l'hôpital pour y subir une prise de sang. Oui. Mais ce conducteur a une autre bonne excuse. Ah non, monsieur l'agent, je peux pas faire prise de sang, je suis hémophile. Bon. Par dépit, le policier lui dit, bah écoutez, vous descendez de votre voiture et vous allez marcher sur cette ligne blanche. Et puis l'autre lui répond, bah non, bah qu'est-ce qu'il y a encore, vous pouvez pas marcher, c'est ça. Bah non, en fait, je suis complètement bourré.
Bref, de volant, c'est donc aux éditions Cherchez Midi. Il y a aussi maintenant la BD.
Il y a la BD qui arrive, oui, qu'on peut commander sur internet, sur www.brefdevolant.fr. Et puis une autre chose, mais je viendrai vous en parler dans quelques mois.
Ah, c'est vrai?
Oui.
Ah, cool. Ça vous manque pas quand même le contact avec nous, les automobilistes, les motards, les usagers de la route? Puisque je sais que vous êtes toujours dans la police, mais vous n'êtes plus motard.
Plus en uniforme. Non, ça me manque pas. Bon, c'est vrai que j'aime bien écouter maintenant aujourd'hui les collègues.
Écoutez, évidemment, ça roule Sud Radio.
Aussi. Non, tout va bien.
Allez, une petite dernière, il nous reste encore une bonne minute, on va pouvoir s'amuser. Cette femme sexagénaire roule à contresens et se permet même de klaxonner les véhicules qui arrivent face à elle. Nous l'invitons donc à s'arrêter pour la remettre dans le bon sens et lui faisons remarquer qu'elle klaxonnait. Ah non, j'ai pas klaxonné. J'ai juste fait tut. Klaxonner, c'est pouet pouet.
Voilà.
Ça va loin quand même, hein.
Il y en a des superbes. À mon avis, vous ne devez pas vous ennuyer. Mais je me souviens quand même des derniers tomes que vous pouvez retrouver avec le fameux qu'on avait gardé avec Laurence, qu'on avait adoré.
Les bonnes excuses des mauvais conducteurs.
Ouais, les bonnes excuses, notamment, est une grandiose. C'était oui, ok, je vais vite. Oui, c'est vrai, mais c'est parce que j'ai les surgelés dans le coffre. Et ça, je trouve ça grandiose.
Celle-là, elle était énorme. Maître de Caumont, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin dans la première de Ça roule 10h midi.
À bientôt.
Bah, j'espère, évidemment, avec plaisir.